sentiment de décalage.
T'es super sensible, mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment?
Surefficience mentale.
Tu penses tellement, mais c'est pas normal.
Intelligence, douance, QI de 130.
T'es un peu bipolaire, je trouve. Tu devrais peut-être te faire aider, non?
Et si j'étais au potentiel?
Bonjour, je suis Ryan et tu écoutes « Et si j'étais au potentiel ?», un podcast qui vise à mettre en lumière le haut potentiel sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je te réserve un épisode assez particulier et assez différent des épisodes précédents, car je vais m'attaquer à la scolarisation des élèves doués. Un sujet très concret qui va décrire cette fois-ci des réalités françaises, puisque je me trouve actuellement à Paris. Il faut savoir que je suis revenu du Canada il n'y a pas longtemps, et que certains épisodes vont maintenant se dérouler en France. À propos de cet épisode, j'ai voulu inviter Florence Paris sur mon podcast, car elle est la référente académique pour les enfants à haut potentiel à l'Académie de Paris. Alors afin de comprendre concrètement quelles sont les réalités du terrain concernant le haut potentiel ici à Paris, je te propose cette entrevue et te souhaite une bonne écoute. Bonjour Florence Paris, merci beaucoup de m'accueillir dans les locaux de l'Académie de Paris et du rectorat.
Bonjour Ryan, ravi aussi.
Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais expliquer à mes auditeurs ce qu'est le rôle d'une référente à l'Académie de Paris sur le sujet du haut potentiel?
Alors la référente académique pour les élèves à haut potentiel, elle est là pour organiser des actions de formation pour les équipes éducatives et pédagogiques de tous les établissements scolaires de l'Académie. Et puis aussi pour faire le lien avec les familles. Donc pour mettre en place des outils, des aides à destination des établissements scolaires, des familles et des élèves.
Et justement, peux-tu nous expliquer quel a été ton parcours avant d'arriver à ce poste-là?
Alors, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait une école de commerce dans commerce et la gestion et j'étais dans le contrôle de gestion auparavant. Et puis, je voulais depuis toujours être enseignante. Donc j'ai repassé des études et un concours avec le CNED. Et puis ensuite, je me suis spécialisée pour les élèves en difficulté scolaire. Et puis j'ai été donc enseignante spécialisée dans un réseau d'aide, ce qu'on appelle un RAZ, en aide pédagogique. Ensuite, je me suis spécialisée pour les élèves en situation de handicap. Donc j'étais la référente MDPH sur un secteur. Et puis, je me suis spécialisée dans les troubles spécifiques des apprentissages. Et puis, 2012, je suis arrivée sur le poste de référente académique pour les élèves à haut potentiel. Ce sujet est arrivé par l'intermédiaire de ma première fille.
Mmh, parfait. Alors, comment tu décrirais, toi, quels sont les grands axes? Quel est ton quotidien? Quelles sont les actions que tu mènes à ce poste-là?
Alors, les grands axes, c'est d'abord beaucoup de communication avec les familles, avec les établissements scolaires et beaucoup de déplacements de la maternelle au lycée et puis de temps à autre aussi avec les établissements supérieurs. Alors ça se manifeste aussi par un partenariat avec le groupe de travail au ministère sur le sujet du haut potentiel.
Alors à ce sujet, nous aurons l'occasion, ne t'en fais pas, de revenir sur tes multiples implications. Alors une première question pour commencer. Pour comprendre comment, parce qu'il y a énormément de ressources, moi je vais inviter tous mes auditeurs à aller regarder sur Internet toutes les ressources qui sont mises en place par l'Académie de Paris sur le site Internet pour les enfants à haut potentiel. Donc il y a un accompagnement qui existe aujourd'hui et le site peut en attester. Maintenant, quel est le protocole pour un enfant, un collégien, un lycéen ou même plus jeune? Comment aujourd'hui il peut bénéficier de cette aide justement de l'Académie de Paris? Quel est le protocole qu'il doit suivre pour bénéficier de ces aides-là?
Alors, on a un protocole, en effet, qui est destiné à tous les élèves à haut potentiel, familles et établissements scolaires. Il est en ligne sur la page académique Internet EHP 75. Ce protocole, il dit, quand on veut bénéficier de l'aide de la cellule académique pour les élèves à haut potentiel, on envoie un dossier par voie numérique avec le formulaire de demande EHP, le bilan cognitif complet qui identifie le haut potentiel, avec les bilans complémentaires quand il y a des troubles spécifiques associés, et les bulletins scolaires les trois derniers, soit de l'année scolaire en cours, soit de l'année scolaire dernière.
Et ensuite, il y a alors une validation de votre part ou un refus, ça dépend de l'évaluation du dossier, comment ça se passe?
Alors, en général, tous les dossiers arrivants sont des élèves identifiés déjà dans le haut potentiel. Quand on est sur un chemin en cours, on aide les familles ou les établissements scolaires à prendre contact avec les psychologues de l'éducation nationale qui sont tout à fait habilités pour identifier ces profils-là ou bien pour aller chez un psychologue en ville.
Mmh. Justement, lorsqu'un enfant il découvre le haut potentiel, est-ce qu'il faudrait dans un premier temps qu'il en parle à ses professeurs, peut-être pour avoir des ressources ? Est-ce qu'il faudrait qu'il s'oriente vers l'administration ou c'est uniquement vers l'Académie de Paris qu'il faut se tourner dans un premier temps ?
Alors, tout dépend de l'âge. Hein, quand on est avec un élève qui est plutôt dans le primaire, maternelle, élémentaire, collège, les démarches vont être effectuées surtout par les parents. Ou sinon par les directions d'établissement. C'est-à-dire que nous, on est sollicité soit par les parents, soit par les chefs d'établissement, voire les psychologues d'éducation nationale ou les CPE, les conseillers d'éducation.
D'accord. Et à ce moment-là, une fois que leur dossier a été accepté, ils peuvent bénéficier donc d'un accompagnement. Celui-ci, il est personnalisé. Comment il se concrétise réellement, en fait ?
Alors, il y a deux cas de figure. Où on aide de façon personnalisée à la scolarisation de cet élève-là avec la famille et l'établissement scolaire et tout va bien parce que tout ce qui a été mis en place dans l'établissement scolaire suffit pour personnaliser le parcours et faire que la situation de scolarisation soit satisfaisante. Ou bien la situation est un petit peu plus compliquée et là, on passe par la commission académique qui est pilotée par la direction académique d'ici, à Paris, avec toute une équipe pluridisciplinaire de professionnels qui sont experts sur le sujet, qui étudient la situation de chaque élève.
Au cas par cas.
Au cas par cas. Et à ce moment-là, on propose des préconisations pour des aménagements pédagogiques particuliers, en fonction des problématiques rencontrées.
Et est-ce que vous avez des exemples ? Est-ce que tu as des exemples à me donner, à nous donner, pour qu'on puisse vraiment voir ça concrètement, quel type d'aménagement un élève peut bénéficier actuellement ?
Alors, par exemple, une situation de la journée d'hier avec un élève en collège avec des difficultés de comportement à qui on a proposé un aménagement du temps, c'est-à-dire il va être sur certaines matières, sur certaines disciplines scolarisées dans son collège. Et pour les autres disciplines, et de façon à alléger le temps, scolarisé à la maison par l'intermédiaire du CNED. Ça se passe par l'intermédiaire d'une convention entre l'établissement, la famille et le CNED.
Et donc ça, c'était un désir de l'enfant, ou c'est vous qui avez cerné que peut-être ça pouvait être une opportunité pour lui de faire les études en classe et une autre partie à la maison. C'est vous qui avez cerné ce besoin-là, ou c'est lui qui est arrivé directement avec ce projet-là ?
Ça, c'est un projet qui est proposé par le chef d'établissement en accord avec la famille,
d'accord.
Bien sûr.
Mmh. Okay.
Après, on peut aussi imaginer un aménagement du parcours avec, par exemple, la mise en place d'un décloisonnement avec un élève qui arrive en sixième dans un collège lambda, avec un décloisonnement, par exemple, dans les matières scientifiques, dans le niveau supérieur.
Un décloisonnement, c'est-à-dire qu'ils peuvent étudier dans des années supérieures à la leur ?
C'est-à-dire qu'arrivant en sixième, il est scolarisé dans sa classe de sixième, mais dans les matières scientifiques, par exemple, il va suivre les cours de cinquième.
Mmh. Et généralement, comment est-ce que tu pourrais qualifier leur intégration suite à ça ? Ça se passe mieux ? Quels sont les résultats de ce type de politiques qui sont mises en place ?
Alors, ça dépend des établissements scolaires. On est vraiment sur du cas par cas. La situation dont je te parle là, c'est ce qu'on avait mis en place dans un collège avec un dispositif particulier dans ce collège. C'est-à-dire que les élèves identifiés HP arrivaient soit par la voie du secteur, soit par dérogation dans ce collège, parce qu'ils étaient en difficulté de scolarisation et parce qu'ils étaient déjà identifiés dans le haut potentiel. Donc il y avait tout un tas d'aménagements qui étaient proposés dans ce collège, avec le décloisonnement, le tutorat avec un adulte, et puis une pédagogie de projet dans certaines matières ou sur certains sujets. Ça veut dire qu'on suivait la scolarisation de ces élèves-là au fur et à mesure de l'année, pardon, et en fonction de chaque cas, en fonction de ses singularités.
Il y a une question qui revient généralement, que ce soit chez les parents ou chez les enfants, c'est la question du saut de classe. Est-ce que tu as pu observer certains cas de saut de classe? Est-ce que tu as certaines expériences que tu peux nous partager à ce sujet-là, que ce soit au collège ou même au lycée?
Alors, le saut de classe est un sujet qui effectivement revient souvent, qui se pose à n'importe quel moment de la scolarité et pour un élève à haut potentiel que l'on peut proposer à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'année scolaire suivante. En fonction de la situation, si on se rend compte qu'il y a un décalage entre les apprentissages proposés à l'élève et ses besoins en termes de complexité, on peut lui proposer de soit décloisonner dans le niveau supérieur, dans certaines matières, soit passer dans le niveau supérieur. Et ça, c'est possible à n'importe quel moment. Je peux par exemple te parler d'une situation d'une petite qui était en CM2, dont la situation a été vue par la commission académique en juin. On a proposé qu'elle arrive à la rentrée scolaire d'après, en niveau 5e.
Ok, parfait. Donc, je vois qu'il y a plusieurs opportunités qui peuvent s'offrir à eux. Maintenant, j'ai une autre question. Tu m'avais dit avant cette entrevue que vous gériez aux alentours de 300 dossiers à peu près par année. Et ma question, c'est comment on peut les répartir c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit plutôt du collège, du primaire, du lycée? Est-ce que tu peux m'en dire davantage?
Ça se répartit vraiment de façon presque équilibrée entre le premier degré, c'est-à-dire maternelle et élémentaire, jusqu'au CM2, et le second degré, c'est-à-dire le collège et le lycée. On n'a pas beaucoup de situations en lycée, davantage en collège.
Mmh. Et ça concerne quel type de situation généralement? Est-ce qu'il y a quelques catégories qu'on peut dresser sur ce sujet?
Alors, moi je dirais qu'il y a deux types de catégories. Un type de catégorie qui concerne des élèves à haut potentiel complexe, c'est-à-dire avec des troubles spécifiques associés, et une autre catégorie d'élèves à haut potentiel homogène, c'est-à-dire sans troubles associés, pour qui on a une nécessité de mise en place de plus de complexité dans la scolarité.
Et ça se manifeste comment, par exemple, pour s'il y a un aspect plus complexe dans le haut potentiel?
Alors, quand il y a un aspect plus complexe, ça veut dire qu'on a du haut potentiel mixé avec un trouble spécifique des apprentissages ou plusieurs. Par exemple, on peut avoir un élève HP, TDA, trouble de l'attention et dyslexique. On peut avoir un élève HP, haut potentiel, avec dyspraxie et hyperactivité. La problématique, c'est que quand on a plusieurs choses associées, le trouble spécifique modifie l'expression du haut potentiel et inversement. Donc c'est trop fréquent, je trouve d'ailleurs. On passe à côté de soit du trouble spécifique, soit du haut potentiel, parce que l'un modifie et masque l'autre, et inversement.
Et donc comment on fait pour accompagner ces élèves-là? Si justement ils ont une particularité, qui peut être par exemple des difficultés à avoir une attention vraiment marquée en cours, mais en même temps, on voit qu'ils ont des possibilités, ils ont ce haut potentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ces enfants-là en cours?
Alors, quand il y a un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, on se réfère au rapport de la Haute Autorité de Santé, qui est très, très récent, puisqu'il date de 2015. Et on a deux cas de figure possibles. Soit on va mettre en place une rééducation cognitive, soit on va mettre en place une médicamentation. Et à l'école, on va mettre en place un projet d'accompagnement personnalisé, un PAP, en accord avec les partenaires extérieurs, c'est-à-dire ceux qui suivent l'élève dans les rééducations ou les suivis avec le pédopsychiatre ou le neuropsychologue et les différents suivis en cours, et l'équipe pédagogique. Et ça peut se faire par l'intermédiaire d'une réunion d'équipe pédagogique dans le milieu scolaire, ou d'une équipe de scolarisation avec l'enseignant référent quand il y a un dossier MDPH.
MDPH.
MDPH, c'est la maison départementale pour les personnes handicapées. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on remarque que tel trouble spécifique entraîne un besoin d'aménagement à la scolarité, par l'intermédiaire d'une demande à la MDPH, c'est-à-dire on va pouvoir demander une AESH, c'est-à-dire une aide éducative, un matériel pédagogique adapté, c'est-à-dire l'utilisation de l'ordinateur en cours, par exemple, on va pouvoir faire un dossier de demande auprès de la MDPH pour mettre en place cette compensation à la scolarité. Mmh. Et dans ces cas-là, on est accompagné par un enseignant référent MDPH pour mettre en place ce projet personnalisé.
Et est-ce que tu aurais un exemple concret d'un élève ou d'une élève qui avait justement le haut potentiel combiné avec une autre particularité et avec qui il fallait mettre en place un projet solide ?
Oui, j'ai deux exemples en tête d'élèves qui ont passé leur bac il y a un an ou deux ou au mois de juin dernièrement par l'intermédiaire du contrôle continu avec un PAP parce que dysgraphie et utilisation de l'ordinateur ou un PAP parce que nécessité de temps supplémentaire parce que trouble de l'attention.
Mmh. Donc généralement c'est un tiers temps qui leur est donné, c'est ça ?
Absolument. Alors c'est maximum tiers-temps en plus. Tout ça, c'est évalué par le médecin scolaire qui est dans les services de l'Académie de Paris ou une autre académie. Et c'est validé en fonction des bilans des professionnels et des partenaires extérieurs.
Et toujours sur ce sujet des 300 dossiers à traiter, est-ce qu'il y a autant de garçons que de filles ? Comment ça se passe ?
Ah, pas du tout. Alors... théoriquement, on devrait avoir autant de filles que de garçons. Quand on fait les statistiques par rapport aux dossiers reçus ou traités par la commission académique, on en a moins de 20% des filles.
20%, ok.
Les filles se masquent beaucoup plus. Elles sont beaucoup plus dans « je vais faire un peu comme tout le monde, je me mets dans le moule » et surtout ne pas me faire remarquer, à tel point qu'elles peuvent avoir les mêmes résultats que la moyenne de la classe et surtout pas les meilleurs résultats pour qu'on la laisse tranquille.
Et est-ce que tu as peut-être une piste de réponse par rapport au fait, à quoi c'est dû ? Le fait que peut-être elles se masquent plus, il y a plus cet effet caméléon où on va moins les remarquer, elles sont peut-être plus scolaires, plus tranquilles. Comment ça se passe ?
C'est plus internalisé avec une fille.
D'accord.
Avec un garçon, ça va plus être externalisé avec... un enfant qui va plus bouger en classe et qui va se faire remarquer. La fille, en général, elle ne veut pas se faire remarquer. D'où l'importance de travailler en communication avec la famille et d'avoir un partenariat et un croisement de regard entre les différents partenaires autour de l'élève en question.
Et est-ce qu'il y a certains exemples de filles avec lesquelles toi, tu as communiqué et tu as pu proposer un projet qui leur était adapté ? Est-ce que tu as ce genre d'exemple ?
Ah oui, absolument. Mmh. Par exemple, une fille qui était déscolarisée, qu'on a réintégrée en collège avec un projet personnalisé grâce à la mise en place d'outils particuliers avec le chef d'établissement. C'était une élève qui avait été dans le décrochage et avec des troubles psychologiques nécessitant une médicamentation et un suivi en hôpital. On a mis en place un aménagement de l'emploi du temps. Elle est venue à temps partiel pour petit à petit avoir un emploi du temps de plus en plus important, jusqu'à un temps plein, jusqu'à récupérer une scolarité totalement « normale », entre guillemets.
Mmh. Je sais par expérience que pour que les enfants puissent accéder à un projet pédagogique ou à quelconque projet possible, les parents doivent donner l'accord. Les parents sont les représentants légaux des enfants. Est-ce que le dialogue est toujours facile avec les parents ? Comment vois-tu les choses ?
C'est pas toujours facile parce qu'on a encore cet a priori-là que les parents se vantent d'avoir un enfant à haut potentiel, sont contents et que c'est une chance. Et trop souvent, on se rend compte que à la maison, c'est compliqué. C'est-à-dire que même si l'élève est capable de compenser sur le lieu scolaire pendant les heures où il est à l'école, en collège ou en lycée, il compense tellement pour se suradapter qu'à la maison, c'est un cauchemar. Et c'est pour ça aussi que c'est compliqué, parce qu'à l'école, on ne s'en rend pas forcément compte qu'il y a cette suradaptation pour se mettre au niveau moyen de tout le monde, dans le moule, et jusqu'à se nier et ne pas exprimer tout son potentiel. D'où l'importance de travailler en collaboration avec les familles, avec les partenaires extérieurs, voire aussi avec les associations nationales pour les enfants à haut potentiel.
Mmh. Mais aussi, ça peut être confrontant aussi pour les parents de se découvrir à travers leurs enfants et peut-être être un peu sur la défensive en se disant « Tiens, peut-être que moi aussi, ça m'est arrivé. » Et c'est un peu surprenant. Et peut-être que parfois, pour des parents aussi, ça peut être une sorte de découverte de soi-même à nouveau, le fait de traiter le sujet du haut potentiel. C'est peut-être pour ça que ça peut être difficile, le contact.
Oui, c'est vrai. Et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. On a des papas ou des mamans qui se reconnaissent par l'intermédiaire de la scolarisation de leur enfant et qui vont aller jusqu'à la passation du bilan cognitif pour justement faire évaluer s'ils sont dans le champ du haut potentiel ou pas.
Mmh. Tu parlais juste avant d'associations sur le haut potentiel en France. Est-ce que vous travaillez avec des associations main dans la main pour essayer de sensibiliser sur le sujet du haut potentiel dans les collèges, dans les lycées, au premier degré ou au second degré?
Alors, on travaille en partenariat avec ces associations, bien sûr, parce que ces associations travaillent à destination des familles, donc dans le champ de la communication par rapport à cette particularité, et proposent aussi des ateliers particuliers pour ces enfants avec un atypisme. Et donc, c'est important aussi de pouvoir dire à cet enfant... si besoin, tu vas pouvoir aller faire cette activité-là et il va se retrouver avec d'autres enfants qui sont comme lui et avoir enfin cet effet miroir. Parce que quand vous êtes dans le champ du haut potentiel ou du très haut potentiel, c'est-à-dire un élève pour 1000, rarement on va pouvoir avoir un effet miroir par rapport à des enfants qui fonctionneraient exactement comme lui. C'est important aussi de pouvoir le proposer par l'intermédiaire de ces associations et ces activités-là.
Et généralement, c'est mis en place au sein de l'école ou c'est en dehors, ce type de rencontre?
Alors, ça se fait en dehors de l'école et sur du temps hors scolaire, c'est-à-dire des jours où il n'y a pas d'école, en week-end ou pendant les vacances ou en fin de journée ou le mercredi après-midi.
Alors, ça va peut-être t'étonner, mais moi, lorsque j'étais au collège ou au lycée, je n'ai jamais vu aucune communication sur le sujet du haut potentiel. Ni même sur le QI ou sur quelconque terme lié au potentiel de près ou de loin. Je n'ai pas vu une affiche, ni même des professeurs pouvoir peut-être être à même de parler du sujet. Est-ce que tu vois toujours cette réalité aujourd'hui? Comment on pourrait améliorer les choses, selon toi?
C'est vrai que c'est un sujet qu'on traite et qu'on communique avec l'ensemble des équipes éducatives et pédagogiques. Et peut-être pas assez vis-à-vis des élèves. Alors, si je prends l'exemple des collèges où on a mis en place un dispositif particulier pour l'accueil des élèves à haut potentiel, cette question était traitée systématiquement en classe, en heure de vie de classe, où on traitait de la différence par l'intermédiaire des différences qui sont soit des handicaps, soit des différences invisibles. Ou par exemple, prendre l'exemple d'un élève myope qui a besoin de lunettes, qui donc a besoin d'un outil de compensation pour cette difficulté visuelle, ça ne nous viendrait pas à l'idée de contester ce port de lunettes. Finalement, c'est pareil pour les élèves à besoins particuliers, sauf que le haut potentiel ou le trouble spécifique des apprentissages, ce n'est pas visible. C'est pour ça que c'est important de parler de toutes les différences. Et en heure de vie de classe ou par le biais de l'enseignant, soit par le prof principal, ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Après, ce qu'on peut faire aussi, et c'est ce qu'on fait sur Paris, c'est mettre en place des actions de formation, soit au sein de l'Académie de Paris, soit aussi pour le plan national de formation.
Alors justement, est-ce que tu peux nous en parler de ce plan national de formation qui est en train d'être créé justement?
C'est ce qui va se passer cette année. On a proposé deux actions sur l'Académie de Paris. Deux ont été aussi proposées au plan national. La première va se passer le 20 novembre en mode distanciel, destinée à tous les psychologues de l'éducation nationale de France et des DOM-TOM. Et c'est la première fois qu'une telle action sera proposée pour tous ces professionnels spécifiques sur ce sujet du haut potentiel avec ou sans trouble.
Et quelles seront les grandes lignes justement de la formation? Comment on accompagne les élèves?
L'idée de cette formation du 20 novembre, c'est de savoir comment évaluer l'élève avec cet outil de bilan cognitif. Le principal outil utilisé pour ces élèves-là, ça sera le WISC-5. Avant 6 ans, ça va être la WIPSI-4. Et après 16 ans, ça va être la VICE-4. L'idée, c'est de savoir comment utiliser cet outil-là, comment l'analyser, comment le coter, pour ne pas passer à côté d'un profil de haut potentiel, ce qui est plus facilement observable quand il y a un trouble spécifique associé.
Et est-ce que dans ce plan de formation, il y aura aussi une sensibilisation au sujet annexe du haut potentiel, donc les profils un peu plus complexes aussi ?
On ne parlera que des sujets à haut potentiel.
Okay.
Donc, soit des sujets homogènes, soit des sujets hétérogènes. Et on ne parlera que de l'outil de bilan cognitif qui sert à identifier justement le haut potentiel. Après, on a aussi l'autre action de formation qui est prévue dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, qui sera notre troisième colloque à Paris sur le sujet du haut potentiel, qui sera aussi proposé sur le plan national de formation, donc pour toutes les académies de France, sur le sujet du haut potentiel, où on va traiter de différents sujets, comme les particularités du trouble des hauts potentiels avec des troubles, ou les difficultés du passage à l'écrit, qu'elles soient pathologiques ou non, et puis aussi de la question de l'accélération de parcours, qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde.
D'accord. Et ce colloque sera ouvert au public ou c'est pour les professeurs
Il est uniquement destiné aux professionnels de l'éducation nationale.
D'accord. Ok, très bien. Et est-ce que aussi tu peux nous parler du... J'ai entendu dire qu'il y avait un groupe de travail au ministère sur le sujet du haut potentiel. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, absolument. Alors depuis 2012-2013, on a monté un groupe de travail au ministère sur le sujet du haut potentiel. Ce groupe de travail a abouti à un programme de formation en ligne sur EduSchool en 2013. Depuis 2019 et l'organisation de notre colloque à la Sorbonne sur le haut potentiel, on a mis en place un nouvel outil qui s'appelle le Vademecum EHP, où la question est de présenter les différentes particularités du haut potentiel et de ses différents besoins spécifiques, avec les aménagements possibles, et puis aussi un tableau de repérage pour ces élèves-là en cours. Et on est en train de continuer de travailler sur la mise en place de fiches spécifiques destinées à des enseignants pour des sujets très concrets, comme par exemple la mise en place du tutorat ou la mise en place de la différenciation pédagogique.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du tutorat, justement ? De quoi il s'agit concrètement ?
Alors le tutorat, c'est d'identifier un adulte dans l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire pour suivre de façon un peu plus rapprochée l'élève.
Comme un coach ?
À peu de choses près. Mmh. Mais là, on va mettre en place un projet personnalisé en fonction de ses besoins particuliers. Et c'est son tuteur qui va régulièrement rencontrer cet élève toutes les semaines, toutes les deux semaines, pour évaluer l'état d'avancement de ce projet personnalisé-là. L'idée, c'est de trouver un adulte qui va avoir une accroche particulière dans la relation avec cet enfant en particulier.
Parfait, Florence, j'ai bien saisi le rôle du tuteur. Maintenant, on va se diriger vers la fin de cette interview. Je vois que tu es très investi dans beaucoup de projets en même temps. Toi, ça fait depuis maintenant quelques années que tu es investi sur le sujet du haut potentiel. Comment tu vois avancer les choses ? Ça avance selon toi ? Comment tu vois l'évolution du sujet ? Parce que maintenant, on en parle de plus en plus. Qu'est-ce que tu vois, toi, sur le terrain et puis sur les projets qui arrivent ?
Alors, je pense que pour améliorer les choses, ce qu'il faudrait, c'est augmenter le nombre de formations mises en place et proposées pour les enseignants, par exemple au premier degré, au second degré et l'ensemble des équipes éducatives pédagogiques. Et puis aussi mettre en place des outils en ligne, des outils spécifiques qui pourront servir à n'importe quel membre de l'équipe pédagogique pour tel ou tel sujet, pour tel ou tel élève, en fonction de ses particularités. Et puis, je pense que ce qui serait bien aussi, c'est de pouvoir permettre une communication privilégiée avec tous les référents académiques pour les élèves à haut potentiel en France, et peut-être même une rencontre qui pourrait permettre de mutualiser les outils des uns et des autres dans l'intérêt de tous ces élèves-là.
Oui, les auditeurs d'ailleurs doivent savoir que la réalité n'est pas la même en fonction des départements ou des académies, c'est
absolument
bien ça ?
Absolument.
Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ?
Tout dépend de ce qui a été mis en place au sein de l'académie. Par exemple, nous, à Paris, on a mis en place une cellule académique pour l'accueil de ces élèves-là. avec également un groupe de travail qui regroupe différents métiers, différentes personnalités des établissements scolaires du premier et du second degré, et puis des commissions académiques qui statuent sur des situations problématiques d'élèves à haut potentiel de premier et second degré. Ces commissions académiques, elles ne sont pas du tout généralisées dans toutes les académies. Tout dépend du temps qu'on est capable d'investir sur ce sujet-là et si le référent académique a d'autres missions en parallèle que celles sur les hauts potentiels.
D'accord, je vois. Donc, c'est une information importante à savoir. Merci beaucoup, Florence, pour tous ces précieux renseignements. C'était un épisode un peu plus poussé, un peu plus spécifique qu'à l'habitude pour vraiment rentrer dans le concret sur la réalité concernant le haut potentiel ici à Paris. Donc, merci beaucoup, Florence.
Avec plaisir.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Tu peux aussi me soutenir sur la plateforme d'écoute de ton choix en me donnant une note ou bien simplement en le partageant si tu connais des personnes qui pourraient en avoir besoin. Sache aussi que si tu souhaites avoir des renseignements supplémentaires concernant cet épisode, je laisserai dans la description de celui-ci l'adresse courriel de Florence Paris ainsi que son LinkedIn. En ce qui me concerne, tu peux toujours me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur LinkedIn, ou alors, si tu souhaites me contacter, je laisse aussi mon adresse mail. Tu trouveras tous ces renseignements en description de l'épisode. Je te souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt pour une nouvelle interview. Merci de m'avoir écouté.